Vous êtes toujours à Point commun, Maxime Despomerleau avec vous. J'accueille en studio avec moi pour parler de, et peut-être faire un petit bilan, parler d'actualité, de la gestion gouvernementale du retour des militaires. Il est journaliste indépendant, auteur et ancien militaire. Martin Forgue a passé plus d'une douzaine d'années dans les Forces armées canadiennes.
11 ans et demi pour être précis.
Pour être précis, et vous avez troqué au début 2011 votre fusil pour la plume. Donc, vous écrivez, vous préparez des projets de livres, mm-hmm. de documentaires dont on va pouvoir parler avec vous. Mais tout d'abord, on va parler en fait justement de cette gestion, de cette prise en charge des militaires qui reviennent de conflits. Le gouvernement conservateur étant connu pour son militarisme, est-ce que ça se reflétait dans ses politiques envers les anciens combattants?
On a toujours, je pense qu'on a observé une espèce de dichotomie entre justement ce qu'on pourrait appeler, disons, l'idéologie un peu militariste du gouvernement conservateur, donc évidemment, qui a eu cours pendant presque une décennie. Donc, augmentation des budgets de la défense, implication accentuée dans la guerre en Afghanistan, ouverture de nouveaux champs de bataille en Libye, en Irak. Et parallèlement à ça, on a observé une diminution des budgets alloués aux services aux anciens combattants, c'est-à-dire ceux et celles qui reviennent et qui ont besoin de suivi, qui ont besoin de traitement. Alors, cette contradiction-là, évidemment, soulève beaucoup de questions parce que ce que ça montrait finalement, c'est que ce gouvernement-là était beaucoup plus intéressé à investir et à s'investir du côté des troupes actives, du côté de l'achat de matériel, d'engagement.
Sur le terrain. À l'international.
Oui, voilà. Et aussi, il y a eu... on ne peut pas jeter tout le blâme sur les conservateurs parce qu'il faut savoir que la charte des anciens combattants, celle qui définit les politiques là, de traitement des anciens combattants, eh bien, elle a été modifiée sous les libéraux de Paul Martin. C'est entre autres le plus grand changement, celui qui a fait le plus de controverses, ça a été l'arrêt des pensions à vie qui ont été changées pour des sommes forfaitaires. Évidemment, bon, ça soulève un lot de problèmes. Et les conservateurs avaient promis durant la campagne de 2006 de revenir à l'ancienne charte, une promesse qui, de toute évidence, n'a pas été tenue.
N'a pas été tenu. Vous parlez justement de l'importance de ces besoins-là de traitement lorsqu'on revient au pays après avoir participé à un conflit armé. Ça représente quoi, ces besoins-là? On a besoin de quoi exactement quand on est un militaire qui revient?
Avant de vous répondre, j'aime beaucoup citer l'actuel candidat démocrate à la présidence américaine, le sénateur Bernie Sanders du Vermont, qui fait beaucoup jaser lui-même ces temps-ci, qui a déjà dit « si l'État n'est pas prêt à investir dans les soins apportés aux anciens combattants, eh bien, les envoyer au combat devient immoral. » Je paraphrase, évidemment. Mm-hmm. Donc, cela dit, ce qui est important de faire, premièrement, évidemment, c'est de d'inventorier, d'identifier les besoins
service.
Évidemment, il y a tout l'aspect blessure physique, toutes les blessures qui empêchent le militaire de poursuivre son service et même peut-être de se rediriger vers certaines carrières civiles qui pourraient exiger une certaine motricité, qui pourraient exiger évidemment, bon, dans plusieurs cas, il y a beaucoup de pertes de membres au combat, donc les métiers plus manuels, c'est un peu plus difficile, tout ça. Donc, on doit non seulement définir un bon programme d'indemnité, hein, parce qu'évidemment, il y a tout l'aspect indemnité, c'est-à-dire que le soldat, homme ou femme, hein, faut le souligner, il y a des femmes au combat aussi dans l'armée canadienne, on doit indemniser ces gens-là correctement parce que, bon, c'est un sacrifice qu'ils ont fait pour le pays. C'est un peu la philosophie qui est derrière ça. Donc, il faut que l'indemnité corresponde bien au sacrifice consenti. Il y a des programmes aussi qui existent également pour rediriger les militaires blessés vers des emplois civils. Je sais que la fonction publique, dans certains concours, vont prioriser les vétérans dans l'embauche. Mais comme je disais, parfois, ces programmes-là ne sont pas nécessairement adaptés aux blessures. Et surtout, en ce qui concerne les blessures psychologiques comme le syndrome de stress post-traumatique, qui, même s'il est reconnu aujourd'hui officiellement, il y a un tabou qui demeure autour de ce... De cette, parce qu'évidemment, on parle de maladie mentale, et là, on se réfère à la culture militaire, bon, qui reste quand même une culture très machiste, hein, le culte de la force.
Tout à fait, et dont, du silence aussi, et du on souffre de ne pas le mentionner, de prendre l'idée de prendre sur soi, en fait.
Exactement, donc l'idée de ne pas le mentionner parce que justement il y a un tabou qui persiste dans la culture militaire, et aussi on a peur chez certains militaires de que notre carrière soit affectée négativement par un diagnostic de syndrome post-traumatique.
On va parler plus en détail de ce syndrome de choc post-traumatique plus tard dans l'émission avec un psychologue. Je voulais profiter de votre présence pour aborder une question peut-être plus délicate. Qu'est-ce que vous pensez du dossier de harcèlement et des agressions sexuelles, des réactions au rapport de la juge Deschamps?
Bien, évidemment, ça a été... c'est un problème qu'on pouvait deviner. Ben, faut commencer par souligner que les problèmes d'harcèlement, d'agression sexuelle, bon, c'est pas exclusif au monde militaire, hein, ça arrive dans à peu près tous les milieux de travail. Par contre, bon, évidemment, l'armée, c'est une institution, hein, c'est un symbole, une société a des attentes très élevées en termes de discipline, en termes de droiture chez les militaires. Alors, quand ça survient, ça frappe beaucoup plus. Et évidemment, il y a toute la question de l'intégration des femmes dans les métiers militaires, à plus forte raison les métiers de combat. Donc, quand des nouvelles, hein, quand des procès bien médiatisés se déroulent, hein, comme par exemple le procès de l'adjudant Gagnon dans le cas de Stéphanie Raymond, notamment, c'est un procès qui est quand même assez récent, quand on voit cet adjudant-là acquitté et la cause portée en appel, et plus récemment encore, un lieutenant-colonel, Martin Bernier, du Royal 22e, accusé d'harcèlement sexuel lors du bal du centenaire du régiment, reçoit un blâme et une amende et aucune dégradation. Il y a un sentiment que la justice militaire ne semble pas équipée pour gérer, pour traduire en justice ces accusations-là. Et bon, le général, l'actuel chef d'état-major, a voulu en faire sa priorité en déclenchant ce qu'il a appelé l'opération Honneur. Mais suite au déclenchement de cette opération-là, avec les beaux discours, il y a eu depuis, justement, bon, le jugement contre le lieutenant-colonel Bernier, qui ne semble pas cadré avec les intentions, hein, de la hiérarchie. Mais c'est un pas dans la bonne direction, il faut le dire. Par contre, j'évoquais tantôt la culture militaire, hein, c'est très rigide, très réfractaire au changement. Donc, même si on fait des efforts, il faut que le reste suive. Et c'est un combat de longue haleine, j'ai l'impression.
Je vois que vous êtes très dégourdi et aussi très renseigné de cet univers militaire-là qui, pour des civils, est parfois opaque, si je peux dire. Donc, il y a beaucoup de sources d'inspiration pour écrire et pour travailler là-dessus. Sur quoi est-ce que... quels sont vos projets actuellement?
Ben, il y a deux semaines, j'ai publié un pamphlet, hein, intitulé « Un Canada errant sur le sentier de la guerre », qui revient sur cette décennie de ce que j'ai défini comme le renouveau militariste durant les années Harper. Évidemment, c'est un monde auquel je m'intéresse et c'est un monde qui se doit d'être critiqué, je crois. Et bon, j'ai peut-être le privilège d'avoir une tribune pour le faire. Et pour moi, c'est un peu une façon d'honorer le service de mes frères d'armes, c'est d'apporter une critique à cette institution-là, évidemment, tout l'establishment, hein, c'est bien mérité par moment. Mais sinon, prochainement, je travaille sur des projets de documentaires, un film intitulé « Du sable dans les bottes » qui suit l'après-guerre de 5 jeunes vétérans de l'Afghanistan. C'est en post-production, il y a eu des retards, on devrait pouvoir terminer d'ici février 2016. Et actuellement, je termine un court-métrage qui s'appelle « Un thé avec l'ennemi » c'est un film qui se déroule autour de ma rencontre avec un ancien taliban que j'ai rencontré à Kaboul il y a 2 ans, presque jour pour jour. Et tout ça est à suivre, évidemment. La production indépendante a son lot d'avantages et d'inconvénients aussi. Mais on travaille fort. Celui-là devrait terminer d'ici la fin du mois.
Et donc, celui-là, il est inspiré vraiment de votre histoire, de quelque chose que vous avez vécu vous-même. Et on va suivre le parcours de ces 5 vétérans-là dans votre documentaire. C'est vraiment fascinant à quel point est-ce que ça peut nourrir, en fait, cette institution-là, ça peut nourrir des projets à côté.
Et... Et comme vous disiez, c'est une institution qui est assez opaque, généralement, et ça permet de jeter une lumière sur une institution qui, on le rappelle, demeure publique, donc n'est pas sans devoir d'imputabilité. Hein.
Tout à fait. Martin Forgue, vous êtes journaliste et auteur, ancien militaire aussi. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce regard de l'intérieur sur les Forces armées canadiennes.
Mais merci à vous.
Merci.